السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette soirée du 18 du mois Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 27 janvier 2016. Nous entrons, incha'Allah ta'ala, dans le 35e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz. Qu'Allah le récompense, lui fasse miséricorde, illumine sa tombe et le ressuscite auprès des pieux et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le bien qu'il nous a enseigné. Allahumma amin. Toujours dans la 17e leçon, la mise en garde contre l'association ainsi que les péchés majeurs. Nous avons vu la gravité et la définition des péchés majeurs, parmi lesquels la sorcellerie sur laquelle nous nous sommes arrêtés. La sorcellerie, comme nous l'avons dit, c'est un mot que l'on utilise pour désigner des choses, des actions, des contrats qui sont faits entre un homme qui est le sorcier, ça peut être aussi une femme, et un diable. Wal'iyadhu billah. Ce contrat a pour but de nuire à l'homme, à ses biens, à sa vie, à sa santé, à sa religion ou d'autres choses encore. Quelqu'un pourrait se poser la question, quel est donc l'intérêt recherché par le sorcier et quel est celui recherché par le démon qui l'aide à accomplir cette tâche maudite? La réponse, le sorcier recherche deux choses. La première, il cherche à être craint par les gens. La deuxième, il cherche à prendre leurs biens et s'enrichir sur le dos des personnes qui sont ignorantes. Et ceci a été dit par le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr lorsqu'il explique les versets de Surat Taha où Allah tabaraka wa ta'ala justement nous parle de l'histoire de Moussa lorsqu'il s'est opposé alayhi salam au sorcier envoyé par Pharaon. Le but recherché par le diable dans la sorcellerie, c'est de pousser l'homme à mécroire en Allah l'immense, subhanahu wa ta'ala, à travers des paroles qu'il prononcera contenant des formes d'association de polythéisme, comme la demande de secours aux démons au lieu de la demander à Allah, la demande de guérison, ou toute forme de culte et d'adoration qui sont vouées au diable, dans le but que les démons fournissent leur aide aux démons humains, qui sont les sorciers. La sorcellerie est très largement répandue sur la terre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et je m'abstiendrai de citer les pays dont je connais les noms où la sorcellerie règne. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Mais le musulman doit prendre garde aux sorciers, à la sorcellerie. Il doit prendre garde à commettre ce grand mal et comprendre qu'il annule sa foi, l'exclut de l'islam et fait de lui un ennemi juré d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sorcellerie, les sorciers sont présents dans les endroits où la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala règne. Et plus les gens se soumettent à Allah, plus les sorciers fuient ces endroits où les personnes pieuses vivent. Ceci car ils recherchent des endroits où le mal est concentré pour propager leur mal. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans les pays où est proclamée l'unicité d'Allah, où est appliquée la foi véritable en Allah, tabaraka wa ta'ala, très peu sont les sorciers. Alors que dans les pays où l'ignorance est largement répandue, les innovations et toutes sortes de péchés majeurs et même péchés mineurs, on y retrouve un très grand nombre de sorciers. Wal'iyadhu billah. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a cité comme péché majeur tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée injustement, subhanahu wa ta'ala. Car Allah a dit dans Sourate Al-Furqan, le discernement, verset 68, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. En vantant les mérites des serviteurs pieux, il dit dans le sens du verset, et ceux qui n'invoquent avec Allah aucune autre divinité et qui ne commettent pas le meurtre de l'âme qu'Allah a rendue sacrée injustement. Puis il nous dit dans Suratu An-Nisa, les femmes, verset 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Et quiconque assassine volontairement un croyant, sa rétribution sera le feu. C'est donc une preuve qu'il est interdit d'assassiner l'âme citée ici volontairement. Et c'est un péché immense qui fait partie des pires chez Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, dans un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on nous enseigne que l'individu, c'est-à-dire le croyant, ne cesse d'être à l'aise dans sa foi et dans sa religion tant qu'il ne touche pas au sang rendu sacré par Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il touchera et fera couler le sang rendu sacré par Allah, subhanahu wa ta'ala, en tuant une personne, cette personne tuée deviendra son rival le jour de la résurrection devant Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un péché immense que d'assassiner une personne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Pire encore, quand il s'agit de gens qui assassinent des personnes en prétextant que c'est la religion d'Allah qui demande d'agir ainsi, wal'iyadu billah, comme on le retrouve chez les Khawarij, cette secte égarée et égarante. Ces gens qui commettent des assassinats de personnes dont le meurtre est formellement interdit et prétextent qu'elles recherchent à travers ces meurtres la satisfaction d'Allah. Comment pourrait-on satisfaire Allah par ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala? Et les récents événements ne sont pas si loin que ça. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide l'égaré parmi les musulmans et nous enseigne la connaissance pour pouvoir la mettre en pratique. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de commettre le meurtre. Il nous interdit aussi de tuer nos propres personnes, ce que l'on appelle le suicide. C'est formellement interdit. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 29, « Wa la taqtulu anfusakum » selon le sens rapproché, « et ne vous tuez pas vous-même, ne causez pas votre mort, ceci est interdit. » Parmi les péchés majeurs cités par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, manger les biens de l'orphelin, s'accaparer les biens de l'orphelin et en disposer injustement. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 10 de Sourate An-Nisa, Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Selon le sens rapproché, certes, ceux qui mangent les biens des orphelins injustement ne font en réalité que manger du feu dans leur ventre. Wal'iyadhu billah. Ô combien terrible cette menace d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'orphelin est quelqu'un de faible et il ignore tout des biens qu'il a en sa possession, comme des biens qu'il aurait hérités de son père et autres. Celui qui est tuteur de l'orphelin doit être de confiance et ne doit pas disposer de cet argent injustement, car il aurait à rendre des comptes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et très nombreux sont les textes où une mise en garde est donnée ou est dirigée à ceux qui disposent injustement des biens des orphelins. Parmi les péchés majeurs dans ce hadith, akl riba, le fait de pratiquer l'usure, c'est-à-dire l'intérêt, L'intérêt a plusieurs formes. La forme la plus répandue ou alors la plus connue, c'est l'intérêt bancaire. Mais il y a plusieurs formes d'intérêt en réalité. Et ceci fait partie des péchés majeurs. Car il s'agit de prendre les biens d'une personne injustement également. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, le verset 266, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah fait disparaître l'intérêt et fait croître les aumônes. Allah aime les aumônes et déteste l'intérêt. Il dit également au sujet de ceux qui profitent de ces biens issus des intérêts, dans le verset 275 de Surat al-Baqarah, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui tirent profit de l'intérêt ne se lèveront que comme se lève celui qui a été bouleversé, touché par le diable. والعياذ بالله. Les savants ont expliqué qu'il s'agit de la situation dans laquelle sera l'individu qui a mangé les intérêts dans ce bas monde. Il sera ressuscité et se lèvera comme se lève celui qui est possédé par le diable. Wal'iyadhu billah. La menace de la colère d'Allah et de sa malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui aide autrui à le consommer, celui qui écrit le contrat et les témoins de ce contrat. Et le récit est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma chez l'imam Muslim, où il nous dit La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba wa mukila wa katibahu wa shahidayhi wa qal hum fil ithmi sawa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui mangent l'intérêt, ceux qui le font manger, celui qui écrit le contrat où il y a des intérêts et les témoins. Et il a dit, ils sont tous égaux dans le péché. Wal'iyadhu billah. Et beaucoup de gens changent les noms et les appellations de ces choses pour les rendre licites. Ils utilisent des appellations qui sont différentes de la réalité de ces choses dans le but de tromper les gens qui les écoutent. Wal'iyadhu billah. Et le fait de changer les appellations d'une chose n'a aucun effet sur la réalité de la conséquence de ces choses si elles sont détestées, si elles sont interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman a l'obligation de prendre garde à toute forme d'intérêt, que ce soit les intérêts bancaires, et très nombreux sont, Allah sait que très nombreux sont les gens qui disposent de comptes à intérêts bancaires et qui bénéficie justement de ses intérêts. Il est formellement interdit d'avoir un compte en banque de ce genre, mais ce qu'il faut, c'est de s'éloigner de ses intérêts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même enseigné qu'il faut s'éloigner de toutes les choses qui sont ambiguës. Il nous dit dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après le compagnon An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, qui nous dit فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Et celui qui se préserve des choses ambiguës, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont le caractère licite est clair et d'autres choses dont le caractère illicite est clair, entre les deux, il y a certaines choses qui sont ambiguës et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils ignorent le jugement de ces choses. Quiconque se préserve de ces choses qui sont ambiguës aura tout fait pour protéger sa religion et son honneur. Et ceux qui tombent dans les ambiguïtés viendront à tomber dans l'illicite. Parmi les péchés cités dans ce récit, At-tawalli yawm az-zahf, c'est le fait de fuir face à l'ennemi en pleine bataille. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Dans ce verset, le verset 16 de Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur dit: quiconque ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la rencontre de l'ennemi, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été amené à combattre le peuple de Quraysh qui s'est opposé à lui et qui a fait subir des nuisances, des sévices et des châtiments aux compagnons qui adhéraient à l'islam et qui entraient dans cette religion. Allah tabaraka wa ta'ala a donc légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre et a interdit de fuir alors qu'ils rencontrent l'ennemi. Et ceci fait partie des péchés majeurs. Et enfin, le dernier péché retrouvé dans ce récit, le fait d'accuser à tort et injustement des femmes croyantes, pieuses, chastes et innocentes d'avoir commis l'adultère. Des femmes qui sont pieuses, des femmes qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme beaucoup de gens parmi les musulmans le savent, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des femmes les plus pures que la terre ait portées, les plus chastes, les plus croyantes, celle qui a amené et transmis une quantité considérable de la science enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été accusée à tort et injustement par les hypocrites d'avoir commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut touché par cette accusation. Elle a enduré, elle a patienté, et après cela, Allah l'a innocentée par des versets que l'on récite dans la sourate du Coran jusqu'au jour de la résurrection. Et pour plus de détails, je vous invite à revenir sur les cours que nous avons donnés par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le livre de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chapitres de la vie du messager, les passages de la vie du messager, le chapitre qui concerne l'histoire de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Vous y apprendrez inshallah énormément de choses. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah cite d'autres péchés majeurs, parmi lesquels عقوق الوالدين ومن كبائر الذنوب, la désobéissance aux parents, qui fait partie des pires des péchés. Car les gens qui méritent le plus la bonne compagnie de l'individu, ce sont ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat l'Arini al-Ankabut, verset 8, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Il nous dit aussi dans Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les parents. Allah tabaraka wa ta'ala a enjoint la bonté envers les parents, de reconnaître le bien qu'ils nous ont fait, de les devancer à quiconque parmi les gens, de les obéir et de les accompagner dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir, ne vais-je pas vous informer des plus grands des péchés? Les compagnons lui dirent: Bala ya Rasulallah, si au messager d'Allah. Et lui reprit et dit: قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين, l'association à Allah et la désobéissance aux parents. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uni dans ce hadith l'association à Allah à la désobéissance aux parents. Et comme vous le savez, l'association à Allah est le pire des péchés, tout de suite après lequel il a cité la désobéissance aux parents, pour nous montrer la gravité de ce péché. On l'appelle en arabe « uquq al-walidain ». « Uquq » et le mot « uquq » huwa al-aqq min al-qat'a, c'est-à-dire le fait de rompre, le fait de couper. C'est-à-dire que lorsque l'individu désobéit à ses parents, il rompt avec eux le lien. Il coupe avec eux le lien et il les prive du fait de les honorer, de se montrer fidèle, loyal avec ses parents. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de prononcer ne serait-ce qu'un mot composé de deux lettres, le mot « ouf ». Il nous dit dans le Coran « Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma » Si l'un d'entre eux, ou tous deux, atteignent l'âge de la vieillesse, « Fala taqul lahuma ouf » Ne leur dis pas « ouf ». Est-ce que vous entendez ? Ne leur dis pas « ouf ». Un mot composé de seulement deux lettres dans la langue arabe. Ce n'est qu'un son qui sort de la bouche. Et nous n'avons pas le droit de le dire à nos parents. Que dire alors de ceux qui disent beaucoup plus que cela ? Que dire alors de ceux qui vont peut-être lever ses mains maudites sur leurs parents ? Wal'iyadu billah, craignez Allah, respectez vos parents. C'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et même si les parents ne sont pas musulmans, nous devons leur montrer le respect. Car Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit que même si les parents sont des polythéistes et qu'ils t'appellent à commettre le polythéisme, ne leur obéis pas, mais fais preuve de bonté quand même envers eux tant que tu es avec eux dans ce bas monde. Parmi les péchés majeurs, qati'atur rahim, rompre les liens du sang, rompre les liens de parenté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 21, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Et ceux qui ont lié ce qu'Allah leur a ordonné de lier. Il nous dit aussi dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 22, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui ont rompu les liens de parenté et les a qualifiés, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, qu'Allah nous en préserve, comme étant des gens qui ont été maudits. Il nous dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Wal'iyadu billah. Le fait de rompre les liens du sang est un péché majeur, destructeur. Et la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne aux croyants de lier, de nouer ces liens avec ses proches, d'être bon envers eux. Parmi les péchés cités par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, shahadatu zur, le faux témoignage. Et le faux témoignage, c'est le mensonge. Le mensonge et la calomnie. Et shahadatu zur, le faux témoignage, accompagne le shirk dans les textes du Coran et de la Sunna. Allah nous dit dans surat al-Hajj, verset 30, فَجِتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, c'est-à-dire, éloignez-vous de la souillure des idoles et éloignez-vous de la parole mensongère. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il dit الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, l'association à Allah, la désobéissance aux parents, il continue dans ce même récit pour dire وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا, alors qu'il était accoudé, quand il a parlé de l'association et de la désobéissance aux parents, soudainement, il a levé son coude, il s'est tenu assis, a levé sa voix et a dit أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ, Ala wa qawlu zour, ala wa qawlu zour. Le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. Le compagnon qui relate ce récit nous dit famazala yukarriruha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter ces paroles hatta qulna laytahu sakat shafaqatan ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nous faire dire si seulement il se taisait par douceur envers le prophète alayhi salat wa sallam, qu'ils ont vu dans cette colère. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.